Bienvenue aux Apatrides Anonymes sur choc.ca en ce 24 juillet pour une nouvelle édition des Apatrides Anonymes. On va vous débloquer ça, nous autres aussi, aujourd'hui. Marie-Ève, donc, à l'animation, pour vous guider tout au long de notre revue bimensuelle des actualités d'ici et d'ailleurs, en lien, comme vous le savez, avec les enjeux migratoires, les enjeux sur le racisme, les droits de la personne, l'extrême droite, les questions qui touchent au peuple autochtone. On va se promener un peu partout dans le monde, notamment aux États-Unis, avec Simon. Salut Simon.
Salut Marie-Ève, ça va bien?
Très bien, en cette super période estivale.
Ouais. Oui, période festive aux États-Unis. Aussi,
exact. Toi, tu vas nous faire un topo là, des récentes mesures agressives du bonhomme orange contre les personnes immigrantes. Je me trompe pas.
Tu te trompes pas, entre autres, et ouais, des mesures qui visent certaines communautés.
Particulière.
C'est ça.
On va aussi faire un tour du côté de l'Allemagne avec Mathieu, qui est à la console.
Bonjour.
Toi, tu vas nous parler de quoi exactement en Allemagne?
En Allemagne, je vais parler des ONG de sauvetage en mer qui ont été coupées, entre autres, de certains chiffres sur la Méditerranée aussi. Et je vais parler ensuite de l'Italie, d'un référendum qu'il y a eu sur la citoyenneté, entre autres, il y a quelques semaines.
OK. Moi, on va aussi parler des mineurs étrangers non accompagnés en Belgique et en France, des réfugiés afghans en Iran. Le Canada sera pas en reste. On va notamment parler des actualités autochtones avec Simon et de celles en lien avec l'immigration que va nous présenter Mathieu.
OK, oui.
Alors, je reviens dans quelques secondes pour vous parler d'accaparement des terres dans le monde par les multinationales. Le CEDAL, le Comité pour les droits humains en Amérique latine, a publié sur son site un texte super intéressant sur l'accaparement des terres dans le monde par les multinationales. L'article résume en fait un rapport, c'est le rapport de l'organisation internationale FIAN et de aussi Focus on the Global South. Et le rapport s'intitule « Les seigneurs de la terre ». On y apprend qu'à eux seuls, 10 propriétaires fonciers internationaux contrôlent 40 millions d'hectares sur la planète. C'est une superficie équivalente à celle du Paraguay ou encore du Japon ou du Zimbabwe. Et donc, 87% se trouvent dans des régions à forte biodiversité. Il s'agit principalement de sociétés agro-industrielles, forestières ou énergétiques qui contrôlent la gestion de ces terres-là, ou encore d'entités financières comme des fonds de pension ou des gestionnaires d'actifs. L'analyse se concentre sur l'exploitation agricole et précise que si on ajoute d'autres secteurs, le logement, l'exploitation minière ou l'eau, par exemple, bien, la superficie totale contrôlée par ces entités-là serait encore fort probablement plus importante.
Ben ouais.
Et donc, plus de la moitié de ces 40 millions d'hectares-là est contrôlée par une seule multinationale.
Ah bon, c'est qui?
C'est Blue Carbon, qui est une société financière des Émirats Arabes Unis spécialisée dans les crédits carbone.
OK.
À elle seule, elle possède 24,5 millions d'hectares, principalement en Afrique. Dans le classement, on trouve en quatrième position une compagnie canadienne, la seule qui figure au classement, Manulife, une société de gestion d'actifs qui possède, bon, c'est beaucoup moins que Blue Carbon, 2,35 millions d'hectares aux États-Unis, au Canada, au Chili, au Brésil, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Parmi les autres, il y en a trois qui opèrent en Argentine où le président Javier Milei a abrogé par décret la loi sur les terres. Une décision qui est actuellement contestée devant les tribunaux puis qui est en attente d'une résolution. Il s'agit donc de la société forestière chilienne Arauco, qui exploite 1,7 million d'hectares sur le littoral argentin, mais aussi au Brésil, au Chili et au Paraguay. En Uruguay. Il y a le groupe italien Benetton, les United Colors of Benetton.
On voit pas de rapport avec les vêtements, mais
qui exploite 924 000 hectares rien qu'en Argentine, Petite anecdote, c'est surtout pour la, c'est surtout en Patagonie, puis c'est surtout aussi pour faire paître les moutons dont ils utilisent la laine pour les vêtements. Et enfin, il y a le groupe Cresud, qui est la seule entreprise argentine du classement, dont l'actionnaire majoritaire est aussi le, surprise, grand promoteur immobilier du pays et allié du gouvernement Milei. Le groupe Cresud est aussi associé à des fonds d'investissement comme BlackRock, qui est un des principaux détenteurs de la dette argentine, et possède donc 883 000 hectares au total, dont au Brésil. Il y a Luciana Roland, qui est économiste à l'Université nationale de San Martín et chercheuse principale du rapport, qui explique que ces 10 plus grands propriétaires fonciers-là font partie d'un système mondial de financiarisation. Je la cite pour expliquer ce qu'elle dit. La crise mondiale de 2008 a entraîné un changement dans le système macroéconomique. La crise bancaire a fait apparaître de nouveaux acteurs dans le secteur financier qui, face à la baisse de rentabilité des obligations et des actions, se sont tournés vers les investissements dans des actifs réels. La terre présente un intérêt particulier pour ses investisseurs car elle prend de la valeur au fil du temps avec un rendement à long terme plus élevé et une volatilité moindre que les actions ou les obligations. Donc, c'est vraiment la cause principale. Mais l'étude mentionne un autre phénomène lié au modèle de financiarisation d'État qui ont là, favorisé l'avancée sur les secteurs agricoles. C'est ce qu'on appelle le « green grab » qui est favorisé par la fausse solution des marchés du carbone. On l'a vu, Blue Carbon, la première compagnie, tout est dans tout. La responsabilité des États dans les accords d'entreprise zéro émission nette fait partie du problème, donc, parce qu'avec ces accords-là, qui porte sur près de 1,2 milliard d'hectares, qui est l'équivalent d'à peu près toutes les terres cultivables de la planète. Plus de la moitié de ces engagements-là risquent de chevaucher des terres utilisées par les communautés rurales et les peuples autochtones. Le rapport ne se limite pas à dénoncer cette situation-là. Il va plus loin en prenant position et en appelant à repenser les politiques redistributives pour faire face à ces entreprises et groupes financiers du Nord qui contrôlent là, de vastes territoires et sapent au final l'autodétermination des populations et la souveraineté alimentaire. Il y a deux stratégies redistributives qui sont proposées, des politiques fiscales progressives et des réformes agraires. Donc, c'est un article assez long, je vous invite à aller le lire, notamment là en ce qui concerne les conséquences de cette hyper-concentration du contrôle des terres. Le texte s'intitule « Accaparement des terres, les 10 multinationales qui contrôle des millions d'hectares, c'est sur le site du CEDAL, cdhal.org. Alors, Simon, ça met quand même un peu la table pour tes actualités autochtones.
Ben oui, parce qu'on est en pleine surenchère de grands projets d'intérêt nationaux qui vont aller scraper encore plus les territoires ancestraux. Donc, quatre nouvelles, pas mal dans ce sens-là pour vous, mais je commence avec une statistique assez marquante, récemment publiée par Statistique Canada. L'espérance de vie moyenne pour les Autochtones au Canada, elle est de 77 ans, donc en moyenne 8 ans de moins que chez la population générale.
C'est une grosse différence.
C'est une grosse différence. C'est 85 ans la population générale versus 77 ans les Autochtones. Chez les Métis, c'est un peu moins marqué, mais chez les Inuits, l'écart se creuse encore plus. 72 ans versus 85, donc une différence de 13 ans. La distribution des données à travers le territoire canadien, ça varie selon l'intensité des facteurs aggravants d'une région à l'autre, la qualité des infrastructures, l'exposition à des contaminants, l'absence d'eau potable, la sédentarité forcée, les taux de suicide, l'accès aux services sociaux et aux soins de santé, mais aussi le traitement réservé aux personnes autochtones dans les différents réseaux provinciaux et territoriaux de la santé, où l'exemple de Joyce Chacouane nous revient en tête en illustrant la disparité de traitement et la crainte que ça peut inspirer à avoir recours à ces soins-là, ce qui est un facteur aggravant en soi. Là, la
peur parce que les gens
ne
se présentent pas à l'hôpital.
C'est ça, pour des blessures non guéries, des maladies non traitées. Pour plus de détails, on se rend dans le site de Statistique Canada. J'ai réussi à trouver les données dans les méandres de ce site un peu labyrinthique. On est presque dans Wikileaks, là, sur Statistique Canada. Si vous cherchez « espérance de vie à la naissance des populations autochtones au Canada », vous devriez le trouver. Donc, on plonge maintenant dans l'actualité en tant que telle. Le projet de loi 97 au Québec, vous en avez sûrement entendu parler en langage parlementaire. Le projet de loi se nomme « loi visant principalement à moderniser le régime forestier et ils suscitent la colère des communautés autochtones qui, dans l'ensemble, jugent que leurs territoires ancestraux ont déjà été considérablement massacrés et qu'avec ce projet de loi, les destructions de l'environnement vont s'accélérer et s'aggraver. Le gouvernement québécois a limité les contacts avec les communautés au strict vraiment très minimum, une seule vraie réunion de travail depuis 2024, et avec seulement les chefs de bande dont le pouvoir est directement issu de la loi sur les Indiens, et évidemment les gardiens du territoire et les chefs héréditaires dont le gouvernement ne reconnaît pas la légitimité, ils ont été écartés du processus qu'on peut même pas qualifier de consultation. Puis, il y a eu la mise sur pied d'une table de concertation dont on apprenait en début de semaine, lundi dernier, que l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, elle en claquait la porte, en dénonçant rien de moins que, je cite, « un acte de dépossession de nos terres ». Donc, c'est des termes assez forts, mais qui traduisent bien c'est quoi ce projet de loi-là, finalement. Ouais. Évidemment, ben, c'est un peu difficile à résumer comme projet de loi, mais ce que je peux dire, c'est que parmi les reculs qui sont dénoncés, on a par exemple l'interdiction de la création de nouvelles aires protégées sur une grande partie du territoire. Donc, ça va être interdit de protéger le territoire dans plein d'endroits. On a la désignation de nouveaux territoires ouverts à l'exploitation qui ne seront pas soumis aux consultations publiques. On a la récolte de bois dans des zones de conservation actuelles qui seraient maintenant permises selon certains critères qui peuvent être ouverts à l'interprétation des fonctionnaires. Et ce n'est pas tout. On constate dans le projet de loi 97 d'autres reculs inquiétants. On reviendrait à ce qui était en vigueur avant le film « L'erreur boréale » et la commission Coulomb, ce qui veut dire que l'industrie forestière serait son propre législateur et régulateur. Elle redeviendrait responsable de planifier les coupes de bois et les consultations publiques sur les secteurs à exploiter, une responsabilité qui est actuellement entre les mains du gouvernement. En plus, le projet de loi ne fait aucune mention de l'objectif de protéger 30 % du territoire d'ici 2030, et propose un recul sur l'engagement historique de protéger 50 % du territoire du plan Nord. Le texte critique le plus complet que j'ai trouvé sur le sujet, son titre est « Projet de loi 97, des reculs inacceptables face à la gestion de nos forêts publiques ». Ça a été publié par SNAP Québec, SNAP qui est Société pour la nature et les parcs. Snap, comme ça, dire ça. ces inquiétudes envers le projet de loi, qui est, on peut dire, le digne de la grande noirceur. On peut les constater par le barrage qui tient toujours aux dernières nouvelles d'un chemin de fer en Haute-Mauricie entre Latuc et Sainte-Terre, qui a été mis en place par Première Nation Mamo, qui a multiplié les coups d'éclat dans les tout derniers jours. Ça avait commencé par une barricade routière pour empêcher les poids lourds chargés de gros bio de bois de sortir leurs marchandises du territoire, blocage qui a été partiellement levé. Et c'est maintenant le transport ferroviaire qui, lui, est complètement bloqué jusqu'à nouvel ordre. Je cite les porte-paroles de Première Nation Mamo, jusqu'à ce que nos demandes soient acceptées par Québec.
Ça va être long.
La semaine dernière, la même Première Nation a aussi bloqué un chemin de fer en bordure du lac Saint-Jean sur une base temporaire. Si les compagnies ferroviaires et forestières promettaient d'engager un dialogue avec la Première Nation, il semble que ça ait porté fruit puisque le blocage a été levé après quelques jours. Mais c'est un peu compliqué. Bref, pour mieux comprendre tous les enjeux, l'état d'esprit qui règne actuellement, un grand dossier très intéressant dans Espaces autochtones. Je recommande la lecture, Les solitudes de la réforme du régime forestier. Vraiment un très long dossier, bien étoffé, là.
Mais le mot à retenir, c'est recul à peu près sur tous les plans.
À tous les niveaux, exactement. Ouais. Autre région, autre enjeu environnemental, même lutte, donc une autre barricade des Innus qui bloque l'accès d'Hydro-Québec à Gull Island, donc Hydro-Québec et Hydro-Terre-Neuve et Labrador, et que, fort de la nouvelle entente conclue entre Québec et St. John's en décembre dernier, les deux compagnies hydroélectriques envisagent la construction d'un autre méga barrage sur le fleuve Churchill. Et même si l'entente provisoire sur cette deuxième centrale à Churchill Falls et sur un nouveau barrage à Gull Island, elle n'est pas encore entérinée, les équipes d'ingénieurs, de foreurs, de géologues, d'hydrologues étaient sur le point de se rendre sur place, mais les communautés locales ont réagi très rapidement, dès le lendemain de l'annonce, pour leur bloquer la route, littéralement. Les analyses d'Hydro-Québec sont donc suspendues. Plusieurs Innus de la région ne sont pas vraiment impressionnés par le 87 millions qu'il leur est promis. D'abord, plusieurs des manifestants à la barricade jugent que les chefs de bande censés représenter leurs intérêts y sont corrompus et que cet argent serait rapidement dépensé, alors qu'on ne peut pas compenser les immenses pertes qui, elles, sont irréversibles, des superficies immenses complètement inondées, la faune et la flore disparues, les infrastructures routières et de transport électrique qui vont charcuter le territoire. On peut aussi ajouter que Gull Island, c'est un lieu ancestral de rassemblement pour plusieurs communautés Innu de la région. Donc, cet endroit culturellement est très significatif. Il serait perdu à tout jamais. Je termine ce segment d'actualité autochtone avec une petite saga parlementaire en Ontario. Des dizaines de communautés autochtones demandent la démission de Todd McCarthy, le ministre ontarien de l'Environnement, qui a co-signé avec son homologue albertaine une lettre adressée à Julie Dabrusin, ministre fédérale de l'Environnement, pour lui demander de carrément renoncer au projet de loi C-61 sur le droit à l'eau potable dans les communautés autochtones, qui reste un projet de loi puisque pas adopté avant la prorogation du Parlement fédéral avant les dernières élections.
Ah, je peux pas croire qu'on parle encore de ça.
Puis c'est un ministre de l'Environnement qui demande ça. Là. Donc, dans la lettre, les deux ministres provinciaux se plaignent qu'un tel projet de loi pourrait ralentir les grands projets d'infrastructure d'intérêt national.
Ben oui, l'accès à l'eau potable ralentirait les grands projets d'infrastructure.
Ben oui. Oh, donc, leur reproche, c'est ça. Donc, que ça pourrait mettre un frein à ces projets-là et les capitales provinciales souhaitent multiplier, le plus rapidement possible dans le cadre de cette course aux investissements qui est une réponse à la guerre tarifaire de l'agent orange, tel que tu l'appelles. Donc, on a un ministre de l'Environnement à Toronto pour qui l'accès à l'eau potable pour les Autochtones, c'est pas important. Il préfère faire la mascotte pour les lobbies industriels. Mais pourtant, il est pas ministre de l'Économie ou des Finances. Et en plus, je tiens à rappeler qu'il y a 37 Premières Nations au Canada qui ont toujours des avis d'ébullition d'eau, dont 26 en Ontario seulement. Donc, ce serait un peu sa responsabilité de prendre ce sujet-là au sérieux, t'sais. Et question de mieux cerner le personnage, en plus de ça, il est constamment accusé de mentir sur le niveau d'avancement des objectifs environnementaux de son gouvernement, des propos généralement en contradiction avec les rapports de son propre ministère. Je ne sais pas si ça vous rappelle un certain ministre de l'Environnement à Québec. Donc voilà pour les enjeux autochtones. J'en profite pour vous rappeler que la 35e édition du Festival international Présence autochtone commence bientôt dans le quartier des spectacles à Montréal. C'est du 5 au 14 août. Avec, entre autres, de la danse, des films, de la musique, même du punk avec le band de 1876. J'ai bien hâte de voir ça. C'est une édition anniversaire, donc, et qui se proclame anti-MAGA. D'ailleurs, l'affiche très cartoonesque du festival nous montre Capitaine Île de la Tortue péter la gueule à Elon Musk. Donc, il a probablement fait l'affiche avant qu'il soit dégommé, là, mais c'est quand même très drôle. Et pour la programmation et toutes les infos, on va sur présenceautochtone.ca.
Super, merci Simon. Sur ce, on s'en va en musique. On vient d'entendre la pièce Crasher du trio féminin éponyme de la ville de Québec qui décrit sa musique comme du punk rock à paillettes. La pièce est tirée de leur unique album Filles Poupées, paru en septembre 2024.
C'était bon, hein?
C'était pas peu.
C'était sympathique, hein? Oui, oui.
On va tranquillement rejoindre Mathieu, d'ailleurs, qui prend le micro avant le temps, là.
Je suis prêt.
Avec les actualités allemandes, comme je vous le disais en intro. Mais en chemin, on s'arrête à la frontière de l'Allemagne avec la Pologne, qui est depuis plusieurs semaines patrouillée par des milices d'extrême droite polonaise pour empêcher les migrants refoulés par Berlin de revenir en Pologne. Leurs actions se sont d'abord concentrées à un poste frontière près de Francfort, puis se sont étendues là, à d'autres sections de la frontière. Il y a des vidéos qui montrent des hommes masqués arrêter les véhicules qui passent la frontière. Ça doit être pas intimidant pantoute. Et leur demander leur papier d'identité. Ils se vantent de vouloir procéder à des arrestations citoyennes de personnes en situation irrégulière. Il y en a d'autres qui installent même des tentes dans la région et poursuivent les personnes migrantes qui voient entrer. À la fin du mois de juin, la police polonaise a d'ailleurs dû disperser une de ses milices dans le nord-ouest de la Pologne à l'aide de gaz lacrymogène. Donc, d'un côté, les actions de ces « patrouilles citoyennes », entre guillemets, autoproclamées et rassemblées au sein du mouvement de défense des frontières, ont été qualifiées d'illégales et de perturbatrices par le premier ministre Donald Tusk. Pas se tromper, Claude, c'est les mêmes lettres.
Hein? Oui, Tusk.
Oui, c'est ça. Les responsables régionaux ont eux aussi averti que les auteurs de ces actes-là pouvaient être poursuivis pour rien de moins que usurpation d'identité et trouble à l'ordre public. Quant au président nouvellement élu, le sympathique Narol Nawrocki, grand admirateur de l'autre d'été, Donald Trump, il a remercié les milices.
Mm-hmm.
Pas dans le sens de foutu à la porte.
Non, mais salut les gars, ça va bien.
C'est ça. Dans le sens de high five. Il faut savoir que début juin, le nouveau gouvernement allemand a décidé de refouler les demandeurs d'asile qui se présentent aux frontières. Donald Tusk se trouve donc sous la pression de l'opposition qui l'accuse de plier face à l'Allemagne et de laisser la Pologne se faire submerger de migrants.
Mm-hmm.
Des militants d'extrême droite affirment même que Berlin déplace des migrants par bus vers le territoire polonais. Ça ressemble à une certaine frontière qu'on a vue avec la Biélorussie, il me semble.
Oui, oui, oui. Puis la Pologne, entre autres, là. Hein?
Exact. Donc, dans ce contexte tendu, là, Tusk a donc rétabli depuis le 7 juillet, de manière temporaire, les contrôles à ses frontières avec l'Allemagne et la Lituanie. Au total, 52 points de contrôle ont été installés à la frontière avec l'Allemagne, longue de 467 kilomètres, et 13 avec la Lituanie, longue de 104 kilomètres. Donc, c'est comme un poste aux 10 kilomètres. Je cite le premier ministre polonais. « Nous avons été les défenseurs de Schengen et nous resterons les partisans d'une Europe avec une circulation sans frontières et sans restrictions. Mm-hmm. Mais cela doit être une volonté partagée et symétrique de tous les voisins. » Donc, il dit à peu près tout et son contraire dans la même phrase.
Ah oui.
Je termine en rappelant que Tusk multiplie les mesures restrictives face à l'immigration depuis son arrivée au pouvoir à l'automne 2023. Par exemple, en juillet 2024, les députés polonais ont approuvé une loi qui autorise les agents en poste à la frontière biélorusse à tirer à balles réelles sur les exilés. Ça, c'est s'ils sont en situation de légitime défense ou de manière préventive. En mars dernier, le gouvernement a entériné une loi aussi très controversée qui permet de limiter le droit de déposer une demande de protection internationale sur le sol polonais. Lorsque les autorités déclenchent ce processus-là, elles doivent le limiter dans le temps, 6 mois maximum renouvelable par accord parlementaire, et limité également à une zone bien précise de la frontière. Et là, ben, cette mesure-là a déjà été prolongée pour 60 jours supplémentaires par le Parlement polonais à la fin mai.
Ils se répondent bien les deux, parce que je vais te parler de l'Allemagne, puis c'est pas mal la même tendance actuellement.
Ben, c'est ça.
Fait que j'y vais, Marielle?
Bien, bien sûr.
Ben, parfait.
À toi l'honneur.
C'est la bonne suite. Donc, plusieurs ONG allemandes en mer, dont CI et Sea-Watch, ont indiqué avoir secouru 175 000 exilés en mer Méditerranée centrale entre 2015 et 2025. Les humanitaires demandent depuis des années à Bruxelles de créer une force européenne de sauvetage dans cette zone maritime extrêmement meurtrière pour ne plus laisser la responsabilité des secours à la société civile. Ces organisations humanitaires sont financées par des dons et soutenues par une large base sociale, mais la pression augmente. on en a parlé dans le viseur des ONG, le décret italien Piante 12, notamment. Ce texte a introduit en 2022 une série de mesures qui régissent les activités des navires de sauvetage en mer. Mm-hmm. En tête de pont, celle qui oblige les ONG à se rendre sans délai au port de débarquement assigné par les autorités italiennes, ouais, juste après un premier sauvetage, on en avait parlé. Généralement, un port très éloigné de la zone où il y a eu sauvetage. Selon un rapport de SOS Méditerranée publié en février dernier, les bateaux d'ONG ont ainsi perdu 535 jours à rejoindre des ports de débarquement éloignés et parcouru au total plus de 275 kilomètres dans le beurre. Certains navires ont même jeté l'éponge. C'est le cas du Géo Barents de Médecins sans frontières qui a mis fin à ses activités en Méditerranée centrale en décembre dernier.
Ah oui?
Oui, en décembre 2024, c'est pas longtemps, oui. Depuis 10 ans, plus de 25 000 personnes sont décédées ou sont disparues en Méditerranée centrale. Et selon les dernières estimations tout récentes de l'UNICEF, environ 3 500 enfants sont décédés dans la même période entre 2014, dans la même zone, pardon, entre 2014 et 2024. Selon le décompte des ONG réalisé depuis 2015, 336 000 personnes ont été renvoyées illégalement en Libye et en Tunisie par les gardes-côtes libyens et par Frontex. Et selon l'OIM, ils sont 10 600 depuis le début de l'année à avoir été ramenés dans les deux pays. Concrètement, les humanitaires recommandent à l'UE de s'inspirer de Mare Nostrum, la grande opération de sauvetage mise en place par la marine italienne en 2013 et 2014. Mare Nostrum n'aura pourtant vécu qu'un an avant d'être remplacé par un dispositif européen moins ambitieux, Triton, arrêté lui aussi en 2019, puis relayé par Thémis, puis actuellement par Irini. On n'a pas entendu parler. Et donc, tout le contexte pour vous dire qu'une semaine plus tard, c'est-à-dire à la fin juin, Berlin a annoncé mettre fin à son soutien financier aux ONG allemandes de sauvetage en Méditerranée, comme SOS Humanité ou SOS Méditerranée. En 2024, 2 millions d'euros avaient été versés par l'Allemagne à des organisations maritimes d'aide aux migrants.
Hey, on s'entend que c'est rien, 2 millions. Là.
Donc, tu vas voir les chiffres pour d'autres affaires, là, c'est ça. Sur les 21 ONG participant à la flotte de sauvetage en Méditerranée centrale, 10 sont allemandes. Fait que c'est quand même un gros morceau.
C'est ça, c'est la plupart sont allemandes.
À peu près la moitié. Avant de devenir chancelier, le chef du Parti conservateur, Friedrich Merz, répétait à satiété que seule une politique très restrictive dans le domaine migratoire pouvait efficacement freiner l'essor du parti AfD en Allemagne. À son arrivée à la tête du gouvernement au sein d'une coalition avec les sociodémocrates, il a annoncé plusieurs mesures pour limiter l'accueil des demandeurs d'asile en Allemagne, dont le refoulement de la plupart d'entre eux aux frontières terrestres du pays, dont la Pologne.
Ben oui.
La députée du Parti vert, Phila Pollat, a qualifié la décision de signe fatal qui coûtera des vies. Depuis 10 ans, les organisations civiles de sauvetage en mer sauvent des vies et interviennent là où l'UE échoue, rappelle l'élu. Au lieu d'avoir du soutien, on assiste à de l'obstruction, des arrestations de navires et la criminalisation des travailleurs humanitaires. Mmh. Même son de cloche pour SOS Méditerranée, qui s'inquiète plus largement d'une tendance profondément préoccupante, à savoir que les acteurs humanitaires en mer et sur terre sont soumis à une pression croissante allant de l'obstruction politique aux obstacles administratifs et à la criminalisation.
Ah, puis l'obstruction physique aussi, souvent, même.
Exactement. Oui, tout à fait. Politique et physique, t'as raison. Par exemple, selon les calculs de SOS Humanité, l'immobilisation par le gouvernement italien de 28 navires de sauvetage civil a conduit à 680 jours d'incapacité à poursuivre des missions en sauvetage depuis 2023. L'Union européenne a dépensé 242 millions d'euros pour la gestion des frontières en Libye et en Tunisie ces 10 dernières années.
Fait contre 2 millions que l'Allemagne donnait
aux 10 ONG, ouais. Sinon, dans les contradictions en Allemagne, on continue. Selon un récent sondage, plus d'un quart des immigrés envisagent de quitter le pays. Parmi les principales préoccupations citées figurent les obstacles bureaucratiques, une charge fiscale trop élevée et l'insatisfaction à l'égard du paysage politique général de plus en plus à droite. Berlin multiplie les mesures et les procédures censées faciliter le recrutement dans des pays tiers, mais rien n'y fait. Le nombre d'arrivées reste loin des attentes. L'Allemagne...
L'opération de charme n'opère pas, comme on dit.
Non, et puis ils veulent pas ceux qui arrivent par mer, hein, ça a l'air. Fait que l'Allemagne a également signé un accord migratoire avec le Kenya en 2024 afin d'attirer les travailleurs, notamment dans des domaines de soins infirmiers et de l'hôtellerie. Mais à la fin 2024, seulement 90 infirmières kenyanes est arrivées en Allemagne par cette voie. L'Allemagne a besoin de faire venir de 300 à 400 000 travailleurs qualifiés étrangers par année, selon une étude réalisée par l'Institut Bertelsmann.
C'est un échec total.
C'est un échec total. Puis avec le gouvernement de droite qui vient d'être élu, avec l'appui des sociodémocrates, évidemment. Un peu d'Italie, Marie-Ève.
Social traître.
Oui. Un référendum destiné à faciliter la naturalisation des personnes étrangères vivant dans le pays a tourné court en juin, faute de participation suffisante. Seuls 30 % des électeurs se sont rendus aux urnes. Or, il fallait 50 % pour que le scrutin soit pris en compte. La première ministre, Giorgia Meloni, qui avait appelé les électeurs à s'abstenir, se félicite de cet échec.
Ben oui.
Rien de moins. Ce référendum soutenu par des... Ce référendum soutenu par des ONG et des partis d'opposition proposait de réduire de 10 à 5 ans la durée de résidence en Italie pour qu'un résident non européen, sans lien de mariage ni de sang, puisse demander la nationalité. Les Italiens étaient également appelés à se prononcer sur une proposition d'abolition de 4 lois de libéralisation du marché du travail, une consultation voulue par la principale confédération syndicale, la CGIL, qui avait collecté les 500 000 signatures nécessaires à l'organisation du référendum. Ce syndicat espérait rétablir des mesures de protection contre les contrats précaires, les licenciements et les accidents de travail qui avaient été supprimés par le passé, particulièrement pour les travailleurs migrants. Autour de 85 % des Italiens qui se sont rendus aux urnes ont répondu oui aux questions sur le travail et 64 % pour oui pour la naturalisation citoyenneté. Mais le référendum est caduque parce qu'il y a eu un appel au boycott de la droite et de l'extrême droite. Donc, voilà. Sinon, en terminant sur l'Italie, Marie-Ève, ça va?
Je suis découragée.
OK. Attends, j'ai pas fini. Début mai, l'Italie a expulsé 5 migrants égyptiens depuis le centre albanais de Gadjer vers leur pays d'origine. Cette opération est la première expulsion effectuée directement depuis le sol albanais. Mais ce transfert, passé sous silence par Rome, est jugé illégal par les opposants au projet. Le 9 mai, un vol au départ de Rome, à destination du Caire, il a fait une escale en Albanie pour récupérer les 5 migrants. En mars dernier, le gouvernement italien a adopté un décret-loi permettant de recycler les structures en centre de rapatriement pour migrants en situation régulière, alors que la justice a refusé à plusieurs reprises de valider l'intention du gouvernement, la détention en Albanie de migrants interceptés en mer.
Bref, c'est comme ils jouent sur les mots.
Oui, c'est plus des migrants interceptés en mer, c'est des gens qu'on transfère là, qui ont déjà passé par l'Italie, puis qu'on envoie ailleurs dans leur pays d'origine.
La finalité est la même, là.
C'est ça. Fait que les juges avaient exigé à l'époque que c'est ça qu'ils ne peuvent pas prendre les migrants interceptés en mer, exigeant même leur rapatriement sur le territoire italien. Selon le ministère de l'Intérieur, entre la réouverture du centre albanais le 11 avril et la fin juin, 110 personnes ont transité par le centre de Gadjer pour être expulsées vers leur pays d'origine. Les opposants au projet déplorent l'opacité autour des centres albanais et assurent par ailleurs que cette expulsion, la récente, là, celle qu'on a su 2 mois après parce que c'était caché, des Égyptiens, est illégale. En terminant dans les contradictions, Marie-Ève?
Vas-y. Les autorités... Je suis déjà en terre.
Les autorités italiennes prévoient de délivrer près de 500 000 nouveaux visas de travail pour les ressortissants de pays non membres de l'UE en 2025 et 2028.
OK.
Malgré tout ce qu'on vient de dire.
Ouais, ouais.
En 2023 et 2025, les autorités avaient déjà souhaité délivrer plus de 450 000 permis de travail aux migrants. Seulement une fraction s'est traduite par des emplois stables en raison de la lourdeur des démarches administratives.
Fait que dans le fond, c'est pas qu'on veut pas de migrants, c'est que...
On les veut temporaires.
On les veut temporaires, puis on veut les choisir nous-mêmes.
C'est ça.
C'est ça.
Puis c'est leur qualification, puis qui arrive direct à l'employeur.
Oui, comme si ça marchait de même.
Ben oui.
Ben, merci Mathieu. On va retourner en musique. Je vous explique qui on va écouter au retour.
Thundering is magic, and if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink, I'm okay. Gets further away every time I try grab it. Underneath all the chatter in this heaven, got a little peak one day, made me feel a go of 7. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. We are into jury tackle in my rut, Marvy Lamb, white Huggins and you. We hiss the fox, so I stroll and draw and fall so well. 4-digit code, what do you know? It's Macara. I'm gonna be spending my dough tonight. 2 pints at a time, strolling about like Dolomite. But home for a shake, third deuce, a chair, a mark, one push. My narrow backer, be it while you strapping you from Oakley Park. And then we both jump down and do your class handstand like a man's man can. Fags land, listen to that, I'll be hugging and visha. Mark a G-shaw, I'm on the upside of the seesaw.
Underneath all the thunder and there's magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink, I'm okay. Gets further away every time I try grab it. Underneath all the chatter in this heaven, got a little peak one day, made me feel a go of 7. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list.
fault. Ik mooi kosten le kakak. Niet liggen maar net wat zo en jan en je stap. Waar we zien nagwa. Rust met je mogeli bab. Karimma ray bound. Durren tolle bakken met chat. En dan we komen lun. Rot hot en tamo golen on. Tan seal so waar we gerrit. De akkaram ugen urrit. Dama on. Je shiri je de kjongiri. Elu ahan sakin. Derre shag ze. Dat de bado wafe tekst. Makahi tu tu hena kron tossi. A wadro. Urrit spekel kur. Hena koni money. Hena nice le koni. Janka bi rojig la storkies. Five fear of lies. So the nimi in them bjorki.
On the knee fella thundering is magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think I'll be, but when I drink I'm okay. Gets further away every time I try grab it. Underneath I'm a chattering as heaven. Got a little peak one day, made me feel I go a seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list.
In me as the hyun, kaita chlegin in Arja. Or warna thung, take them sick of willin' seal drum. It's chona her run, but we got one chance and then it's fun. So be who hands, speak your pain and receive the love. Don't let the cunts get ya. Don't surround yourself with ones that bless ya. Talk sack and talk on all not go knees guest ya. It's great, get danging a willing seal short ditch ya.
On the knee fell a thunder and there's magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think I'll day, but when I drink I'm okay. Gets further away every time I try grab it. On the knee fell a chatter in this heaven. Got a little peak one day, made me feel I go a seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list.
Et on écoutait donc le trio hip-hop Kneecap de Belfast en Irlande du Nord. J'ai choisi d'en faire jouer, étant donné la controverse récente là, qui a suivi sa performance et celle de Bob Vylan au festival de Glastonbury en Angleterre. Ils ont été accusés de tenir des propos haineux en raison de slogans anti-Israël, particulièrement contre l'armée Israël, en fait, israélienne, qui ont scandé pendant le concert. Depuis ce moment-là, là, il y a aussi le Centre consultatif des relations juives et israéliennes qui a demandé au ministre de la Sécurité publique puis de l'Immigration du Canada d'interdire aux deux groupes l'entrée sur le territoire.
Ils sont dangereux, oui.
Kneecap doit normalement se produire à Toronto et à Vancouver en octobre. La pièce qu'on a entendue, c'était « Better Way to Live », qui met en vedette aussi Fountain D.C., un autre groupe d'Irlande, mais pas du Nord, de Dublin, qui est aussi critique d'Israël et pro-palestinien. C'était tiré de l'album Kneecap, qui est la bande-son du film éponyme à propos du groupe, sorti en 2023.
Ça a l'air bon, ce film-là. Oui, documentaire.
Oui. Ouais, ouais. Ça a l'air de bûcher pas pire, un genre de Trainspotting, ouais. En tout cas.
Nord-irlandais.
Oui. On reste à l'international, plus précisément en France et en Belgique, où plusieurs associations tirent la sonnette d'alarme sur le traitement qui est réservé aux mineurs non accompagnés. Le plus inquiétant, c'est en Belgique, puisque selon les chiffres même du gouvernement, pas moins de 774 mineurs étrangers non accompagnés ont disparu des radars en 2024. Et si 246 d'entre eux ont fini par être retrouvés, mais c'est quand même plus que 500 qui restent toujours dispersés sur le territoire belge, sans que les autorités aient quelconque information à leur sujet. Parmi ces cas-là aussi, il y a une centaine qui sont jugés très préoccupants, en raison de l'âge de l'enfant, de ses besoins médicaux urgents ou d'indices qui pourraient faire craindre un danger grave. Ça s'applique, par exemple, aux enfants disparus de moins de 13 ans qui se trouvent dans un lieu dangereux ou en présence de personnes inquiétantes au moment de sa disparition, ou bien s'il vit avec un handicap physique ou mental, par exemple. Les associations dénoncent les lacunes structurelles du système d'accueil belge parce que les chiffres similaires recensés en 2023 montrent qu'il s'agit d'une problématique récurrente dans le pays, puis pour laquelle il y a eu très peu d'améliorations au fil des ans. Et avec environ 2250 disparitions enregistrées en Belgique entre 2021 et 2023, le pays est l'un des trois États européens les plus touchés par ce phénomène-là. Les disparitions de mineurs étrangers non accompagnés sont d'ailleurs en augmentation depuis plusieurs années dans toute l'Europe. Selon le projet d'enquête Lost in Europe, 18 000 cas ont été recensés entre 2018 et 2021 et plus de 51 000 entre 2021 et 2023. Le bond est énorme. L'organisation Child Focus, qui suit ce type de dossier-là, souligne également que ces chiffres-là sont largement sous-estimés parce que plusieurs disparitions ne sont pas recensées. Il y a beaucoup d'enfants qui ne rentrent jamais dans le système d'accueil, qui peuvent donc pas être officiellement signalés comme disparus,
ben oui.
Ce qui complexifie aussi leur recherche. Et la situation semble pas meilleure en France. Le rapport des droits au hasard du département d'arrivée, point d'interrogation, qui est publié par deux associations de défense des droits des personnes migrantes, dénonce là aussi de nombreuses défaillances, parmi lesquelles des critères subjectifs pour déterminer l'âge, des mineurs laissés à la rue, des traumatismes ignorés, une évaluation sommaire des documents d'identité et un manque de structure adaptée. Donc, c'est pas de minces défaillances.
Non, non.
Et comme l'évaluation de la minorité ainsi que la mise à l'abri sont la responsabilité des départements et non de l'État, eh bien, il y a des différences de traitement importantes selon l'endroit du territoire où les jeunes arrivent, ce qui entrave la reconnaissance de leur minorité et accentue leur vulnérabilité. Chaque mois, de nombreuses personnes qui se déclarent mineures se retrouvent sans protection à la rue après avoir été décrétées majeures, par exemple, par des départements. Or, après dépôt d'un recours, il y a un mineur sur deux qui est finalement reconnu comme tel par un juge des enfants. Sauf que durant le traitement de ce recours-là, ben, qui peut durer jusqu'à un an et demi, les jeunes sont pas pris en charge par les autorités, sont livrés à eux-mêmes. Je rappelle d'ailleurs les expulsions brutales là, de lieux occupés par des jeunes immigrants dont on vous parle régulièrement à l'émission. Mm-hmm. Par exemple, il y a le collectif Le Revers de la Médaille qui, selon lui, entre février et mai 2024, il y a 828 jeunes qui ont été expulsés de leur lieu de vie à Paris seulement. Et donc, ces mineurs accompagnés-là sont principalement originaires de Guinée, Côte d'Ivoire, Tunisie, Bangladesh, mais aussi de Gambie et du Cameroun. Ils sont majoritairement masculins. Ce sont des jeunes qui ont fui des conflits, des situations de violence, la pauvreté ou qui sont en rupture familiale. Et en 2024, l'aide sociale à l'enfance, qui est l'équivalent de la DPJ ici, protégeait officiellement quasiment 14 000 mineurs non accompagnés en France.
OK. Beaucoup de chiffres, mais on voit vraiment l'ampleur du phénomène.
Oui, oui, c'est vraiment inquiétant. Vraiment très inquiétant. Alors voilà, Mathieu, là, on revient au Québec et au Canada.
Ben oui, des enjeux d'immigration, de démographie. Je vais commencer avec une très belle annonce estivale de la CAQ, encore une fois. Il y en a eu d'autres cette semaine, on en reparlera éventuellement. Mais Québec annonce un gel des demandes de réunification familiale. Les personnes qui souhaitent aider leur conjoint ou leur enfant à charge majeure à immigrer au Québec en vertu du programme de regroupement familial ne peuvent plus le faire, et ce jusqu'au 25 juin 2026. Le nombre maximal de demandes a été atteint pour la période en cours, a fait savoir le MIFI. Les nouvelles demandes seront retournées aux personnes demandeuses sans être traitées, indique le ministère. Cette suspension est critiquée.
Retour à la case départ.
Cette suspension est critiquée, entre autres, par l'avocat Patrice Brunet, en droit de l'immigration, qui considère que le regroupement familial est pourtant au centre d'une valeur sociale. Je le cite, ce n'est pas comme l'immigration économique, on ne peut mettre un quota. Dans la situation de réunification familiale, les gens ne choisissent pas la nationalité de leur conjoint. Du 26 juin 2024 au 25 juin 2026, le MIFI s'était fixé une limite de 13 000 demandes dans la catégorie du
réunification,
regroupement,
hein.
Selon le principe du premier arrivé, premier servi, ce qui représentait une diminution d'environ 50% par rapport à la période précédente. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a actuellement 30 000 dossiers en attente dans cette catégorie. Je cite encore...
Ceci explique peut-être cela.
L'avocat Brunet. Au Canada, il n'y a jamais eu de quota de suspension des demandes en réunification familiale pour les conjoints. C'est historique. Cette suspension pourrait pousser davantage de couples à s'installer dans d'autres provinces, comme en Ontario, où le délai de traitement de demande est de 12 mois. Au Québec, ce délai est de 37 mois.
Un an et quart, un an et demi quasiment.
37 mois? Non, c'est 3 ans et quelques.
3 ans et quelques, oui, c'est ça, excusez.
Ouais. C'est 3 ans et un mois.
Oui.
Sinon, Statistique Canada révèle que la croissance démographique a stagné au premier trimestre de 2025. L'organisme indique que la population canadienne a augmenté de seulement 20 000 personnes pour atteindre 41 millions et plus, soit la plus faible augmentation depuis le troisième trimestre de 2020 en pleine pandémie. Il s'agit du deuxième taux d'accroissement démographique le plus faible au Canada depuis 1946, depuis qu'il y a des chiffres comparables. C'est le sixième trimestre consécutif de ralentissement de la croissance démographique dans la foulée de la décision du fédéral en 2024 de réduire les niveaux d'immigration temporaire et permanente. Le Canada a admis 100 000 immigrants au premier trimestre de 2025, tandis que le nombre de résidents non permanents a diminué de 61 000. Oh. Voilà pour les chiffres. Sinon, CBC, Radio-Canada, a appris que le procès d'un homme accusé d'un important trafic d'êtres humains a été annulé le jour de son ouverture parce que la Couronne avait omis de remettre à la Défense certaines informations au dossier. La GRC avait initialement déposé 9 accusations de traite de personnes contre Christian Vitella en 2019 à la suite d'une enquête conjointe avec l'Agence des services frontaliers. 5 autres individus avaient été inculpés pour des accusations semblables. À l'époque, la police avait déclaré qu'elle avait trouvé près de 80 personnes originaires du Mexique vivant dans des conditions déplorables dans plusieurs propriétés, dont une douzaine de personnes dans la maison de Vitella Hamilton en banlieue de Toronto. L'individu a donc plaidé coupable de l'accusation la moins grave du dossier, celle d'avoir employé des étrangers sans autorisation. Fait que, il a été condamné à 2 ans de probation. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle, ce qui signifie qu'il n'aura pas de casier judiciaire s'il remplit les conditions de sa probation. Selon une déclaration commune des faits entre la Couronne et la Défense, Vitella a donné des emplois aux quelques 80 travailleurs migrants qui n'avaient aucun permis de travail par l'intermédiaire de sa propre agence d'emploi. Vitella organisait le transport aller-retour sur les chantiers du Golden Horseshoe, c'est une région en Ontario, notamment vers des usines de recyclage, des entreprises d'emballage de viande, des serres de fleurs et de fruits et des fermes de visons. Leurs conditions de travail étaient parfois exténuantes. Vitella a collecté les paiements de ces entreprises et payé les travailleurs après avoir déduit loyers et autres frais. Des conditions de contrôle avaient été mises en place à la résidence de M. Vitella. Les victimes ont déclaré qu'elles avaient été contraintes de renoncer à leurs documents de voyage, n'avaient pas été autorisées à sortir
un
chez
classique.
Elles lorsqu'elles se trouvaient à la résidence. Mais pire que ça, Christian Vitella était lié à 2 personnes de Hamilton qui ont également été accusées de traite de personnes dans le cadre de l'enquête. Et eux, il n'y a pas eu d'omission de preuve à la défense. Muriel Bracamonte et Mario Roca Morales, la femme de 47 ans, avait été condamnée à 4 mois d'assignation à résidence et à 8 mois de probation. Après avoir plaidé coupable, elle aussi d'une accusation d'avoir employé des ressortissants étrangers sans autorisation. Mais Roca Morales a pour sa part été condamnée à 8 ans et demi de prison en février 2024, après avoir plaidé coupable de 3 chefs d'accusation liés à la traite de personnes. Parmi les victimes, 6 Mexicains étaient entrés au Canada par les aéroports de Montréal et Toronto en 2018 et 2019. Ils avaient tous travaillé pour Morales, tout en vivant dans des conditions qualifiées de sordides. Morales déterminait leur salaire ou le montant qu'il lui devait, il les payait avec du retard. Les documents judiciaires montrent aussi que Rocco Morales les insultait verbalement, menaçait de les agresser physiquement, de leur retirer leur emploi ou leur logement ou de les faire arrêter. Il a par ailleurs agressé sexuellement l'une des femmes et en a menacé d'autres de les rendre enceintes. Morales revêtait en outre souvent une tenue de camouflage et il était armé. Il limitait même les victimes
personnage.
Dans leurs déplacements et décidait à quelle heure elles mangeaient ou prenaient une douche. Leur chambre était en outre infestée de souris, de punaises de lit et de coquerelles. Donc, 8 ans et demi de prison. Morales, qui est résident permanent, sera probablement expulsé du pays vers le Guatemala au terme de sa peine. Est-ce qu'il me reste une minute, Maria?
Oui, vas-y. Rapidement.
Reportage dans laconverse.com qui s'appelle « L'accompagnement juridique des personnes migrantes à statut précaire ou sans statut, une loterie souvent perdante ». C'est un peu sur le dédale de se faire défendre comme il faut par des avocats en immigration. Mais il y a aussi des organismes communautaires qui aident les gens. Donc, un article intéressant sur laconverse sorti le 20 juin 2025. Et je vais finir avec des citations de François Legault à la Saint-Jean-Baptiste.
Ah.
La fête nationale, c'est le moment de se pencher sur le chemin qu'on a parcouru comme nation depuis 400 ans. De se rappeler des bâtisseurs, comme il faudrait que Simon prenne la voix de jésuite, comme Samuel de Champien, Jeanne Mance, Marie de l'Incarnation, qui ont fondé en Amérique du Nord une nation francophone. Puis ils ont pu compter sur l'aide des nations autochtones. A déclaré le premier ministre dans une vidéo publiée le 23 juin.
Oui, on a une intervention ici, là.
Oui.
Notre cher premier ministre.
Oui, Marie de l'Incarnation. Et à Charlemagne, le lendemain, quand on regarde ce qui se passe à Montréal, moi, ça m'inquiète de savoir qu'il y a des centaines de milliers de nouveaux arrivants qui ne parlent pas français. On a tous un devoir. Ça fait 400 ans qu'il y a des Français qui ont débarqué ici. Va falloir aussi être un peu plus strict, entre autres à Montréal, ajoutant que les personnes qui se joignent à nous autres doivent parler français.
Ben oui, Montréal, la ville du vice!
Fait qu'il a dit ça dans son comté, le Hank Hathorn, en Baptiste.
Bon. Sur ça, on va écouter des petites notes de musique.
OK.
Toujours sur les ondes de choc.ca avec les apatrides anonymes. Et c'était des quelques notes de Le Husky. Avec tout, avant de céder le micro à Simon pour ses actualités états-uniennes, avec toutes les crises en cours sur la planète, ben le sort des réfugiés afghans ne fait plus tellement les manchettes. On apprenait récemment selon l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, près de 450 000 d'entre eux ont quitté l'Iran pour revenir dans leur pays d'origine depuis le début du mois de juin seulement. C'est qu'à la fin mai, le gouvernement iranien avait donné jusqu'au 6 juillet aux 4 millions d'Afghans sans papier pour quitter le territoire. Depuis le début de l'année 2025, le nombre de départs s'élève à un peu plus de 900 000. Ce qui est inquiétant, c'est que de nombreuses personnes ont fait état de pression de la part des autorités, mais aussi d'arrestations et d'expulsions et de la perte, évidemment, de leurs économies dans le cadre de ces départs précipités. Dans le contexte d'importantes coupes dans l'aide internationale, l'ONU, des ONG et des responsables talibans ont appelé à davantage de financement pour venir en aide aux personnes concernées. L'ONU a averti que ce flux de population pourrait déstabiliser l'Afghanistan, qui est déjà confronté à une grande pauvreté, à un taux de chômage élevé, ainsi qu'aux conséquences du changement climatique, et donc a exhorté les pays qui accueillent des ressortissants afghans à ne pas les expulser de force. À toi, Simon.
454 000, tu disais.
Depuis juin seulement.
C'est fou quand même.
C'est absolument fou. Depuis le début de l'année, ça s'est vraiment accéléré là, au mois de juin, parce que depuis le début de l'année, c'était 900 000, mais 450 000 seulement depuis juin, là, c'est...
Comme tu disais, déstabilisant.
Oui.
Et on s'en va aux États-Unis. Je vais me concentrer sur...
Où il se passe des choses déstabilisantes aussi.
Ben, c'est un vrai crack house, là. Ouais. C'est assez fou, là. Je vous parlerai pas du camp de concentration de Alligator Alcatraz où les magas vont se prendre en selfie carrément devant, là. Ça fait un petit peu dur. Première nouvelle en lien justement avec le fait qu'on envoie absolument n'importe qui dans ces goulags du Sud suite aux arrestations du ICE basées sur des contrôles aléatoires aux faciès. En tout cas, c'est ce qu'a conclu une juge fédérale de la Californie, hein, toujours la méchante Californie, suite à la plainte pour profilage racial de deux individus et des associations qui les défendent. Les deux hommes dénonçaient aussi les obstructions pour avoir accès à un avocat dont ils ont été obstructions dont ils ont été victimes en prison. La décision qui a été rendue la semaine dernière, elle s'applique seulement à certains counties de la région de Los Angeles et interdit au ICE d'arrêter sans motif valable sur la base des quatre facteurs suivants. L'origine ethnique, le fait de parler espagnol ou anglais avec un accent étranger, le métier exercé par la personne ou le fait de se trouver dans un lieu particulier puisqu'on procède aussi à des arrestations de masse de toute personne se trouvant dans certains lieux fréquentés par certaines communautés, des commerces, des lieux de culte, des centres communautaires, etc.
Ce qu'on appelle du profilage.
Du profilage de masse.
Ouais.
Les responsables de l'administration Trump ne se défendent même pas des accusations de profilage et en rajoutent en disant que le profilage est un outil essentiel à leurs opérations. Et évidemment, ils vont porter la décision en appel si ce n'est déjà fait. Je n'ai pas suivi ça de si proche que ça. Autre nouvelle en direct du... je parlais de Crack House. Ben, c'est en direct du Crack House en dessous de chez nous. Là. C'était un peu plus tôt en juillet. Une autre décision de justice suite à une plainte de trois ONG de 13 individus provenant de plusieurs pays, à la suite de laquelle un juge fédéral de Washington, celui-ci, suspend un décret de Trump qu'il avait signé dès le lendemain de son assermentation. Une proclamation qui interdit aux personnes entrées clandestinement aux États-Unis de demander l'asile. Et c'était rétroactif à peu près à jamais. Là. Le juge explique son verdict ainsi, je vous lis une traduction d'un extrait de son jugement. Rien dans la loi sur l'immigration ni dans la Constitution ne confère au président les pouvoirs invoqués dans son décret. Donc, comme pour la plupart des autres décrets présidentiels, encore une fois, celui-là est incontestablement inconstitutionnel. Et les auteurs de ces décrets-là savent bien, ils savent aussi très bien que ces bras de fer avec la justice, ça alimente ce sentiment anti-judiciaire, comme dans les autres cas, des sentiments anti-scientifiques, anti-université, anti-médias. Parmi la base républicaine, donc c'est électoralement stratégique payant. De leur part, c'est ça, que cette base électorale elle se nourrit de cette colère contre les institutions. Mais ça ne change pas le fait qu'en vertu de ce décret illégal, 6 des 13 co-plaignants ont déjà été expulsés malgré leur crainte pour leur sécurité dans leur pays d'origine. Et le juge, peut-être pour ne pas trop froisser le cabinet présidentiel, indique que sa décision ne s'applique pas à ces 6 personnes déjà expulsées. Les 7 autres pourront donc poursuivre leur démarche de demande d'asile. On leur souhaite bonne chance.
C'est n'importe quoi.
Dernière nouvelle, toujours début juillet, après la révocation du TPS, le Temporary Protected Status, pour les Haïtiens, les Vénézuéliens, les Afghans, les Népalais et les Camerounais, on annonçait le même sort pour les 72 000 Honduriens et 4 000 Nicaraguayens qui avaient bénéficié de ce statut temporaire en 1999. Suite à l'ouragan Mitch qui avait dévasté cette partie de l'Amérique centrale. Le gouvernement indique qu'en 25 ans, les deux pays ont eu le temps de se remettre sur pied, mais plusieurs ONG indiquent que depuis ce temps-là, le Honduras et le Nicaragua ont connu d'autres catastrophes naturelles, demeurent des pays profondément pauvres, inégalitaires et violents, avec surtout pour le Nicaragua, encore plus que pour le Honduras, c'est un régime autoritaire.
Beaucoup de corruption.
Beaucoup de corruption, les droits humains bafoués constamment. Et surtout, en 25 ans, ces 76 000 personnes se sont enracinées dans leurs communautés respectives aux États-Unis, parlent anglais, occupent des emplois stables, paient des impôts, ont des enfants et inversement n'ont parfois plus aucune attache dans le pays d'origine ou même parfois ne connaissent plus personne.
Ben non, c'est ça.
Certains ne parlent même pas espagnol.
Exact.
Cette révocation de statut temporaire fera probablement l'objet d'une contestation judiciaire, elle aussi, dans les prochains jours. On est vraiment dans... Il y a beaucoup de contestations de toutes parts aux États-Unis. Dans le contexte où on apprenait qu'il y a 3 semaines, un autre méchant juge suspendait la révocation des statuts temporaires pour les personnes haïtiennes. La semaine dernière, c'était celle provenant d'Afghanistan qui se voyait accorder une grâce judiciaire par un autre juge qui a probablement lui aussi été abondamment arrosé d'insultes sur Truth Media. Tout ça se produit dans un contexte inédit et dangereux dans lequel la Cour suprême a autorisé fin juin l'expulsion des demandeurs d'asile et des personnes en situation irrégulière vers d'autres pays que leur pays d'origine, ce qui accélère considérablement les expulsions de masse et permet de faire un maximum de dommages entre l'adoption d'un décret visant une catégorie d'individus et un jugement de cour suite à une contestation, en expulsant vers des pays qui ont conclu des accords avec Washington, comme les plus connus jusqu'à maintenant, le Salvador et ses prisons terribles, ou encore le Panama, et même début juillet, le Soudan du Sud, l'un des pays les plus dangereux de la planète actuellement, mais que Washington considère comme sûr dans sa vérité parallèle.
Oui.
Encore plus absurde, la semaine dernière, un titre de l'AFP a attiré mon attention. États-Unis, des migrants asiatiques et caribéens ont été envoyés en Eswatini. C'est l'ancien Swaziland, la dernière monarchie absolue d'Afrique, donc un minuscule royaume complètement enclavé dans le territoire de l'Afrique du Sud, l'Eswatini, donc que Washington considère aussi comme un pays sûr, et où se trouvent maintenant 5 migrants qui viennent du Vietnam, du Laos, du Yémen, de Cuba et de Jamaïque. Hey, et aucun ne vient d'Afrique.
Ils doivent être perdus. Hein?
Oui, ben nous aussi, je pense qu'on commence à...
C'est revirement de situation-là, puis là, je veux dire, il n'y a plus personne qui suit rien, là, ça doit être tellement, je veux dire, quand t'es en attente de statut ou pas, ça doit être épouvantable.
Ouais, puis il y en a eu en Bosnie aussi qui ont été envoyés il n'y a pas longtemps.
Mais c'est
parce qu'il l'a inclus dans les accords commerciaux qu'il fait sur les tarifs. Carrément ça.
Ben oui, on met ça dans des containers, là, puis...
3-4 migrants contre des terres rares.
Écoute... N'importe quoi.
J'aurais pu faire une heure sur les États-Unis. Je pense qu'on
va y aller à petite dose, si ça te dérange pas souvent. C'est déjà la fin de l'émission. Oui, vous pouvez pleurer. Vous noyez votre chagrin dans...
À chaudes larmes.
Oui.
Ou restez fort, tout simplement.
OK. Simon, toujours avec un optimisme.
Un jovialisme.
Oui. Je vous invite à écouter nos autres balados disponibles sur notre page du site, sur le site du choc.ca ou encore sur notre propre site internet www.apatridesanonymes.info. Je vous rappelle qu'on est aussi diffusé sur les ondes hertziennes du 107,9 de Radio Victoria 2 fois par semaine. De l'autre côté, hein, c'est du coast to coast, notre affaire.
Salut aux victoriens et victoriennes.
Écrivez-nous à apatridesanonymes à commercialresist.ca et suivez notre page FB tant que vous pouvez. Merci à mes 2 co-animateurs, Mathieu et Simon, hein, sans qui... je dois l'admettre, cette émission serait impossible.
Ben, merci Marie-Ève, merci à toi pour cette belle animation, choix musical et mini-micro, ma foi, bien rempli.
Oui, c'était des mini-gros micros.
Ben, merci à vous deux, toujours très agréable.
On va se laisser en musique avec une pièce de circonstance en cette époque de plus en plus dystopique. Il s'agit du nouveau projet de l'artiste brésilienne Lua, qui porte le nom très à propos d'Anthropoceno. Elle intègre au post-rock et au shoegaze les styles traditionnels de la bossa nova et de la samba. C'est assez, audacieux. On va entendre une pièce tirée de l'album Natureza Morta, Morte, qui est Nature Morte, vous l'aurez deviné, qui est paru en mai et qui figure à la 11e position du palmarès international de choc. On va écouter la pièce qui s'intitule Dos, 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 Dia de Calor Extremo. Donc, 222 jours de chaleur extrême, qui est un peu mon clin d'œil à la canicule de la semaine dernière.